Bonjour, je m'appelle Martine Pérez, je suis médecin et journaliste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Laurent Abramowitz, gastro-entérologue et proctologue à l'hôpital Bichat à Paris. Dans ce podcast proposé par TLM, revue de formation médicale, nous allons discuter de la prise en charge de la maladie hémorroïdaire, un motif de consultation fréquent avec des enjeux diagnostiques et thérapeutiques parfois sous-estimés. Bonjour professeur et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Est-ce que le diagnostic d'hémorroïdes est-il difficile? Est-ce que l'examen clinique suffit?
Alors, non. C'est pas compliqué à diagnostiquer. Déjà, l'interrogatoire est très orientant. Quelqu'un qui vous dit qu'il a un saignement qui éclabousse la cuvette, quelqu'un qui vous dit qu'il a des gonflements au niveau de l'anus, quelqu'un qui vous dit qu'il a des douleurs intermittentes, ça doit orienter vers la pathologie hémorroïdaire. Mais pas que, on en reparlera après, hein. Il y a beaucoup d'autres pathologies au niveau de l'anus qui donnent ce type de symptômes. Après, outre l'interrogatoire, je pense qu'on ne doit jamais traiter un anus sans l'examiner. Et je pense que tous les soignants qui prennent en charge un patient de ce type doivent au minimum inspecter la marge anale, donc se mettre dans des bonnes conditions. Pour moi, le patient le plus facile à examiner, c'est lorsqu'il est en position génu-pectorale, donc à quatre pattes, mais ça peut aussi se faire sur le côté gauche. On écarte la marge anale après avoir demandé l'accord du patient, on met le doigt dans l'anus après avoir demandé l'accord du patient, et rien que inspecter la marge anale en écartant doucement les plis radiés de l'anus et en faisant le toucher, bah, permet de diagnostiquer la plupart des pathologies anales, en fait, hémorroïdaires, mais aussi fissures, mais aussi suppurations, et éliminer un cancer du canal anal, voire du barrectum.
Oui, est-ce que quand les gens arrivent avec une suspicion d'hémorroïde, ils peuvent souffrir d'autres choses? Est-ce que il y a des pièges à éviter?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce que le plus souvent, ce n'est pas des hémorroïdes. Ah. Avec les étudiants que j'ai souvent avec moi, on rigole, parce que c'est systématique. Donc je leur dis, vous inquiétez pas, c'est ça qui va se passer, et c'est à chaque fois ça qui se passe. On a toujours une jolie lettre, je vous adresse pour hémorroïdes, où le patient vient pour hémorroïdes, et en fait, on va trouver plein d'autres choses. Une fissure anale, c'est-à-dire une douleur déclenchée par la selle. Une douleur déclenchée par la selle. Ce n'est pas les hémorroïdes, c'est une fissure anale. Et dans mon expérience, c'est presque plus fréquent que la pathologie hémorroïdaire. Une douleur pulsatile, insomniante. Vous vous rappelez vos premiers cours de médecine, c'est un abcès de la marge anale. Des suintements au niveau de l'anus, c'est une fistule anale, voire une incontinence anale qu'il va falloir traiter. Voilà, il y a plein d'autres pathologies. Et c'est aussi pour ça qu'il faut systématiquement examiner un patient qui a un symptôme, parce que le plus souvent, ce n'est pas une pathologie hémorroïdaire. Donc si vous donnez un peu bêtement un traitement pour hémorroïde systématiquement, bah, vous êtes à côté de la plaque le plus souvent. Et puis, vous allez passer à côté de cancer. Parce que je crois me rappeler que les topiques locaux, les vénotoniques ou tous les traitements qu'on donne pour les hémorroïdes ne marchent pas sur le cancer. Et donc, c'est une faute grave que de laisser passer un symptôme anal sans l'examiner. Parce qu'on va ne pas diagnostiquer une pathologie anale au début qui va être facilement traitable. Et pire, laisser passer un cancer parfois.
Alors, il y a des patients qui sont réticents à se faire examiner. Est-ce que c'est un problème pour ces patients réticents qui souffrent? Est-ce qu'il y a une prise en charge immédiate sans examen que vous pouvez proposer?
Alors, c'est vrai, je suis d'accord. C'est une très bonne question parce que moi, en tant que proctologue, les patients, ils viennent pour un examen procto. Donc, j'ai jamais, quasiment jamais, sauf peut-être une fois par an, un patient qui refuse de se faire examiner. Et j'insiste pas, d'ailleurs. Voilà. Je pense que chez le généraliste, et on avait fait deux études dans ce sens, bien sûr, il y a beaucoup de patients qui vont dire, bah, écoutez, non, moi, j'ai pas trop envie de montrer. Voilà, c'est une zone quand même qui est très honteuse. Donc,
intime,
oui, mais honteuse pour beaucoup de gens. Les deux, en fait. Donc, je pense que la stratégie, c'est d'expliquer pourquoi on propose ça. Voilà, je comprends que ce soit difficile pour vous. Je pense que je risque de me tromper dans mon diagnostic si je vous traite sans vous examiner. Est-ce que, voilà, une fois que je vous ai expliqué ça, donc prendre le temps d'expliquer pourquoi, et si le patient refuse toujours, on peut toujours par argument de fréquence, encore une fois, un patient qui a une douleur déclenchée par la selle, c'est une fissure. Donc donner un traitement probabiliste de fissure anale. Un patient qui a des saignements qui éclaboussent la cuvette, on peut commencer par des topiques Legault et une régulation des transits, avec le message, si jamais ça persiste d'ici quelques jours, là, je vais vous envoyer au proctologue. Et vous devrez avoir un examen procto. Donc attention, si ça persiste, vous ne pourrez pas échapper à l'examen procto pour vous. Et puis, je parle du saignement. Un patient de plus de 50 ans ou qui a des risques antécédents familiaux, par exemple, de cancer du côlon, à la coloscopie. Donc là, ce n'est pas l'exploration anus, c'est l'exploration colique.
Et alors, quand le diagnostic d'hémorroïde a été fait, comment choisir la prise en charge thérapeutique la plus appropriée selon les situations ?
Voilà, alors il y a plusieurs situations, effectivement. Pathologie hémorroïdaire, je vous rappelle qu'on a tous des hémorroïdes internes et tous des hémorroïdes externes. Les hémorroïdes internes peuvent soit sortir dehors, c'est le prolapsus, soit saigner, et soit les deux. Et les hémorroïdes externes ne peuvent quasiment que se manifester par la thrombose hémorroïdaire. Donc c'est une grosse boule bleutée, plus ou moins œdémaciée, qui gonfle et qui fait mal. Et donc du coup, le traitement est différent. Alors le traitement est différent, oui et non, parce que la cause de tout ça, de toutes les pathologies hémorroïdaires, internes et externes, c'est la constipation, la dyskésie, le fait de pousser pour aller aux toilettes. Donc le traitement de la régulation du transit, c'est toujours. Et puis après, lorsqu'on a une thrombose hémorroïdaire externe, eh bien on va donner localement des pommades à base de corticoïdes et ou anesthésiques locaux. On va dégonfler cette zone qui fait mal. Et puis, par la bouche, donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui est le traitement antalgique le plus utile en cas de thrombose hémorroïdaire externe. Et puis, lorsque c'est une pathologie hémorroïdaire interne, donc je rappelle le prolapsus, plus ou moins le saignement, régulation du transit avec des topiques locaux pour un petit prolapsus, petit saignement. Si ça suffit pas, c'est le traitement du proctologue, les infrarouges, la ligature élastique. Et si ça suffit pas, eh bien là, on a recours à la chirurgie, mais exceptionnellement. Parce que la chirurgie, c'est moins de 10% des pathologies.
Dans l'un ou l'autre cas, on utilise les mêmes topiques corticoïdes plus ou moins anesthésiques.
Alors, il y a débat là-dessus, il n'y a pas des recommandations très claires. Pour ma part, je donne plus des corticoïdes avec anesthésique locale pour la thrombose hémorroïdaire. Il y a une boule œdémaciée qui fait mal, donc je donne un anti-œdémateux et un anesthésique. Pour le saignement, c'est juste une irritation du canal anal. Je suis pas sûr que un simple topique ne suffise pas, quelque chose qui va graisser, qui va faire en sorte de lubrifier le canal anal.
Et on parle souvent de petits moyens comme je sais pas les bains de siège froid ou autres. Est-ce que on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est quoi la vérité? Il y a rien à faire.
Rien. Voilà, ça sert à rien du tout.
Ça sert à rien.
J'ai effectivement, c'est les réseaux sociaux qui ont à peu près 30 à 40 ans de retard.
D'accord.
Puisque effectivement, il y a 30 à 40 ans, on disait ça et puis depuis, on s'est rendu compte que ça servait à rien du tout.
Bon, alors que c'est une chose très claire pour les médecins qui nous écoutent. Et est-ce que la stratégie contre les récidives, qu'est-ce que vous...
Traiter la cause. La cause, c'est la constipation, c'est le fait de pousser pour aller aux toilettes. Alors, c'est tous ces patients qui restent longtemps aux toilettes. Message 1, ne pas rester plus de 2-3 minutes sur les toilettes. 2, pour avoir des selles moulées, molles, eh bien, manger plus de fibres alimentaires jusqu'à avoir des selles moulées, molles. Et tous les jours, manger suffisamment de fibres alimentaires pour avoir des selles moules et molles, tous les jours, en rappelant que les fibres alimentaires, ce sont les légumes secs, les fruits secs, beaucoup plus que les salades, les haricots verts ou même les fruits de l'été.
Donc
légumes secs et fruits secs. Donc lentilles, petits pois, pois chiches, soja, pruneaux, abricots secs. Voilà, tout ça, c'est 15 à 25 grammes de fibres pour 100 grammes d'aliments, alors que les légumes verts, c'est plutôt 2 à 3 grammes. Vous voyez, donc beaucoup plus rentable les légumes secs et les fruits secs. Et c'est un message utile parce qu'il y a beaucoup de végétariens qui vous disent, alors moi je suis tranquille au niveau des fibres. Là, j'ai une petite astuce, je leur dis, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Et donc, en général, ils vont me sortir les haricots verts, des courgettes. Ça, c'est super, il y a plein de vitamines, il ne faut surtout pas arrêter. Mais en plus, mangez des légumes secs et des fruits secs et vous resterez végétarien, bien sûr, ce n'est pas un souci. Mais voilà les aliments vraiment les plus riches en fibres.
Et les patients qui respectent ces consignes sont protégés, selon vous, contre...
Alors, on est protégés, ça dépend à quel stade on vient me voir. Donc,
d'accord.
Encore une fois, si on vient à un stade 1, pathologie hémorroïdaire, eh bien, si on fait ça, ça ne va pas évoluer, effectivement. Si on arrive déjà au stade 3 ou 4, il va falloir faire d'ores et déjà un traitement instrumental, voire une chirurgie. Mais pour pas que ça récidive après ces traitements, de toute façon, on repart sur la régulation du transit.
Vous pouvez redéfinir juste les stades?
Alors, c'est le stade essentiellement par rapport au prolapsus. Donc, du coup, c'est un peu limite comme, pour bien expliquer les différentes pathologies. Mais en tout cas, le stade 1, c'est un petit saignement sans prolapsus. Stade 2, c'est un prolapsus, mais lorsqu'on arrête de pousser, ça rentre spontanément. Stade 3, il faut remettre avec le doigt. Stade 4, ça reste en permanence dehors, les hémorroïdes internes. Et donc, du coup, bah, ça, c'est la chirurgie ou rien, mais il n'y a que la chirurgie qui peut traiter ça.
C'est ça. Donc, quel est le pourcentage de patients contraints d'opérer pour les hémorroïdes?
Dans la littérature, on lit 10%. Dans mon expérience, parce que je suis un extrémiste du traitement médical instrumental, mais un extrémiste dans le sens où ça marche super bien, eh bien, dans moins de 5% des cas, je suis amené à opérer un patient pour pathologie hémorroïdaire. Et plus le généraliste, plus mes collègues médecins en amont traiteront ces pathologies, moins on les fera évoluer et moins elles auront besoin de chirurgie.
Écoutez, merci beaucoup, professeur Laurent Abramovitz. On a bien compris que le plus important, c'est de faire le bon diagnostic, donc d'examiner correctement le patient, de faire un diagnostic aussi précoce pour pouvoir utiliser des moyens locaux qui permettent de traiter les hémorroïdes et bien sûr de mettre en place une prévention de la récidive avec un régime alimentaire adapté. Merci pour vos explications très claires.
Merci beaucoup.